Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
1666 est une catastrophe. 666, c'est l'année du diable, comme chacun sait. Et donc, en janvier, on a la reine-mère qui meurt d'un cancer. En mars, en février, on a Madame Sommer, Madame est morte, ça se passe dans les jardins de Saint-Cloud. Et puis en mars, Molière perd son petit garçon. Donc, rien ne va plus. Il part pour Auteuil, où il va avoir un régime au lait, un régime lacté, comme on dit, ne peut plus boire d'alcool. Il fait une dépression nerveuse. Ça s'appelle un burn-out. Et en 1666, sa femme le trompe naturellement. Il s'enferme donc à Auteuil, où il reçoit Boileau, il reçoit Claude Chapelle, qui essaye de lui faire boire du vin. Tout ça l'ennuie. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va prendre son mal en patience, son mal en grippe, et surtout, il va essayer de faire rire de ce mal de l'atrabilaire, et il écrit Le Misanthrope. Alors, Le Misanthrope, eh bien, c'est une pièce extraordinaire, très curieuse, très compliquée, c'est-à-dire qu'on vous dit que ce sont de beaux alexandrins, d'ailleurs, la plupart aurait été écrit par Corneille, imaginez-vous. Mais pas du tout, je pourrais vous démontrer le contraire, mais enfin, c'est comme ça. Et alors, Le Misanthrope, on considère que c'est une pièce sérieuse. On l'a généralement au bac de français, en première, et on n'ose pas aller regarder. Cela dit, si vous allez aujourd'hui à l'Épée de Bois, au théâtre de l'Épée de Bois, emmené par Thomas Le Douarec, dans une mise en scène absolument décoiffante, avec Jeanne Pajon dans Célimène et Jean-Charles Sagache-Bagnan dans Alceste, et ben vous allez voir un Misanthrope 2.0 tout à fait fondamental. Nadir Amaoui est avec moi, il a vu la pièce aussi. Thomas Le Douarec, le metteur en scène, est ici. Anne Pajon, la jeune veuve, est parmi nous. Et naturellement, Jean-Charles Sagache-Bagnan, qui est Alceste, est aussi ici. Alors, c'est l'histoire de Célimène qui a été mariée à 14 ans avec un vieux barbon qui a été pas capable de lui faire un enfant. Et alors, il meurt. Elle est très riche et elle n'a plus qu'une seule envie, c'est de faire la fête. Et ça commence par une gigantesque boum au milieu de laquelle vous régnez, Jeanne Pajon.
Exactement. On commence sur une bonne ambiance festive.
Oui, mais alors plus que festive, parce que alors, ça danse, ça chante, et puis à un moment donné, foutez-moi la paix, va dire Alceste, quand Philinte va aller le voir, laissez-moi, je vous prie.
Tout à fait.
Parce que vous n'avez pas du tout envie de faire la fête.
Pas du tout envie de faire la fête. Non, pas du tout.
Vous avez envie de quoi?
Moi, j'ai envie d'être avec ma chérie, c'est tout.
Vous avez envie de la petite, c'est tout.
Bah oui, enfin de la petite, pourquoi la petite?
Il faut dire c'est une grande brune.
On va parler
superbe.
D'un autre sujet, là.
Non, c'est une grande brune superbe. Et alors, donc il n'y a qu'une seule chose qui vous intéresse, c'est d'être isolé avec elle.
Bien sûr. Et puis, elle m'agace profondément, mais je l'aime passionnément.
Et pourquoi elle vous agace?
Parce qu'elle est dans les mondanités, ce dont j'ai horreur. Elle donne un peu son amour à tout le monde. Enfin bon, bref,
elle fréquente les mauvaises personnes.
Elle est libre.
Exactement. Ouais, elle est libre. Oui, en même temps, elle est libre.
Et alors, comme autrefois on envoyait des poulets, là on envoie des SMS.
Exact.
Et des WhatsApp et on s'éclate.
Bah, c'est la grande idée de Thomas, hein, la grande idée de la mise en scène, de la vidéo, des portables. On est vraiment dans l'époque actuelle. Et Molière est un génie.
Et alors, Marie-Céline Nivière, qui n'a pas la langue dans sa poche, écrit « Rogue, l'amour connecté et rageur, tout nous a séduit. Jean-Charles Sagache-Bagnan est excellent. Le Misanthrope 2.0, endiablé, bravo. » Et puis un peu plus loin, c'est dans toutelaculture.com. Les comédiens sont absolument formidables. On rit sans pause. Quelle énergie, Thomas Le Douarec, pour monter ce truc-là? Parce qu'il n'y a pas un temps mort.
Non, il n'y a pas de temps mort, mais c'est la pièce qui est merveilleuse. Moi, j'ai vraiment essayé de servir au mieux le texte, essayé de servir au mieux l'auteur. Et je me demande toujours, en fait, quand je monte un spectacle, c'est qu'est-ce qu'il écrirait, comment il l'écrirait aujourd'hui, Molière, qu'est-ce qu'il nous parlerait de quoi, en fait, parce qu'il a toujours il a attaqué nos travers, il attaque nos défauts. Et donc, là, il le fait. Puisqu'on est malheureusement, l'être humain n'a pas changé en 400 ans. On est toujours aussi sensible à l'image qu'on peut donner aux autres. Et on pense avant tout à son image avant de penser à ce qu'on est. Et là, c'est ce qui se passe. C'est que si on a quelqu'un qui essaye d'être lui-même, qui est Alceste, et toute une société autour de lui qui veut absolument paraître autre chose qu'ils sont réellement.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que... À l'époque de Molière, Molière jouait ça dans les costumes de l'époque, de son époque. Donc les gens se reconnaissaient immédiatement. Et l'homme au ruban vert, mon Dieu, pas de verre au théâtre. Et surtout, l'homme au ruban vert, on ne mettait pas de verre à ce moment-là. Et lui, il arrive, il se met des rubans verts. Voilà. Et parce qu'il veut se distinguer de tout le monde. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si Molière, comme vous le disiez, vivait aujourd'hui, eh bien, naturellement, tout le monde serait en blue jean et en t-shirt.
Totalement.
Évidemment, on serait pas du tout. Aujourd'hui, remonter le misanthrope avec des perruques et des galons verts, ça semble complètement
ça n'a pas
absurde.
De sens. C'est une reconstitution historique.
Oui, c'est ça.
Voilà.
C'est le musée Grévin.
Exactement, on est dans le musée Grévin et c'est tout ce que je n'aime pas au théâtre. Je respecte mes collègues ou même d'autres démarches artistiques, mais là, ce qui m'intéressait, c'était de rendre ce texte vivant. C'était que ce texte parle aussi bien à une jeune de 14 ans, parce que là, tu parlais tout à l'heure de Célimène qui avait 14 ans.
Et voilà, elle en a 20 maintenant.
Elle en a 20. Elle en a 20, c'est une femme en plus d'une modernité, Célimène. Et c'est là où tu t'aperçois que Molière était visionnaire, c'est que cette femme, elle est incroyablement moderne. Elle ne veut pas se remarier. Elle veut rester libre. Finalement, elle a tout compris. Elle a de l'argent. Elle est libre. Elle a une situation qui lui permet effectivement de s'amuser à butiner un peu à droite à gauche. Mais malheureusement pour elle, elle tombe amoureuse et de la mauvaise personne. C'est aussi une réflexion sur l'amour. Parce que Molière nous dit quelque chose à travers cette pièce. On aime l'amour a des raisons que la raison ignore. Mmh. Et il dit une chose à un moment donné, Alceste.
La raison me le dit chaque jour, mais la raison n'est pas ce qui règle l'amour.
C'est magnifique. C'est tellement vrai.
Et c'est tellement vrai.
On ne peut pas enlever une syllabe ni un mot.
Non, et ce qui est merveilleux, c'est qu'il va tomber amoureux de Célimène. Et l'amour... Et c'est une pièce sur l'amour, c'est une pièce qui... Et cet amour les dévaste tous les deux. Et c'est terrible, parce qu'ils n'aiment pas la bonne personne. Et ils essayent, comme ils peuvent, de faire avec l'autre, enfin, cet autre, qui est à l'opposé de ce qu'ils sont, réellement.
Lui, c'est un pervers narcissique.
Oh non.
Il veut tout contrôler. Parce qu'elle, c'est un peu une Agnès qui s'est enfuie après l'école des femmes, et qui maintenant... Ouais. Et qui retombe sur un amour qui quand même ressemble à quelqu'un qui l'emprisonne. Parce qu'il veut l'emmener au désert, c'est-à-dire dans sa propriété loin...
Ouais, elle veut pas.
À Bucy-Rabutin.
Exactement.
Ils se comprennent pas.
À l'époque, c'était à la campagne, c'était pas dans un désert.
Hein, oui, mais ouais. Quand je dis Bucy-Rabutin, c'est en pleine Bourgogne. Ouais.
C'est pas si loin que ça, elle peut revenir.
On est dans un château.
Un petit coup de scout ou de trottinette, elle revient.
Et on s'ennuie. Et alors, en face... Parce que c'est pas une gamine, c'est une vraie femme. Et en face, il y a Arsinoé.
Il y a Arsinoé, ouais.
Qui est joué par Caroline Devine, qui est venue il y a quelques semaines ici. Et alors là, c'est absolument terrible, ça griffe entre vous.
Bah ça griffe. Après, on s'était dit avec Thomas que Arsinoé, potentiellement, c'était une ancienne Célimène et qu'elle voyait en Célimène ce qu'elle avait pu être. Et c'est souvent ce qui nous énerve chez les autres aussi. C'est ce qu'on a été ou ce qu'on aimerait être ou ce qu'on n'est plus. Et là, bah oui, c'est pour elle. Elle arrive, elle critique tout ce que fait Célimène, mais dans le fond, elle envie sa liberté, je pense.
Oui, et puis...
Et sa jeunesse, surtout.
Peut-être pas. Et sa jeunesse.
Et Alceste,
voilà.
Surtout.
Moi, comme c'est pas la première fois que je le dis à la radio, les classiques mis en scène comme dans la vieille tradition, ça m'emmerde. Mais clairement, ça m'emmerde. Et je me suis déjà ennuyé face à des spectacles qui, même si le texte est beau, mis dans une mise en scène qui est trop plate, ça m'ennuie. Et le talent, j'ai pas d'autre mot, le talent qu'a Thomas pour mettre en scène des grands auteurs, que ce soit Molière, que ce soit René d'Obaldia, que ce soit Dostoïevski ou même Guitry, il remet vraiment tous ces spectacles-là au goût du jour.
Oscar Wilde.
Corneille.
Ah oui.
Racine.
Ah bah oui, Racine, oui.
Je dis Racine parce que j'ai joué Pyrrhus dans une mise en scène de Thomas.
De Thomas.
D'Andromaque.
Voilà. Ça reste pas assez longtemps à Paris.
On l'a pas joué à Paris, d'ailleurs.
On l'a jamais joué à Paris, Andromaque. On l'avait créé au Chêne Noir à Avignon.
Et en tournée.
Et en tournée.
C'était il y a combien de temps, ça, déjà?
C'était... Oh, ça fait plus de 10 ans.
Quand vous étiez pas né, Jeanne.
Oui.
Il y a 20 ans.
Ouais, c'est ça.
Pas loin de 20 ans, je pense.
2004, 2005, je pense.
Ouais.
Bon, donc on revient...
Mais pardon.
La digression.
Et Thomas a ce talent de remettre vraiment des classiques au goût du jour, et ça attire énormément. Et moi, première chose que j'ai vue quand je suis rentré dans cette salle, qui est magnifique, en plus, l'épée de bois, c'est ce décor lumineux, électrique, la musique en direct, la musique en live, les projections sur le mur, sur un mur de pierre absolument sublime, et le votre jeu à vous tous, tous les huit, il n'y en a pas un qui est en dessous des autres, vous étiez tous vraiment excellents.
Si, si, il y en a deux quand même, mais on ne dira pas les noms. Hein.
On ne citera pas les Marquis.
D'ailleurs, si, je profite d'ailleurs de citer leurs noms. Les Marquis sont joués par Rémy Johnson, Mary Johnson et Valérie Ambert-Arbonnet, qui est également aussi musicien. Et oui, non, ils sont, et toute la troupe est formidable.
Vraiment, vous êtes vraiment tous excellents et ça donne vraiment envie des spectacles comme cela à des plus jeunes, parce que moi je trouve que les plus jeunes vont pas assez au théâtre, et des spectacles comme cela, ça donne envie aux jeunes de retourner au théâtre et de voir, d'avoir une vision des classiques qu'ils n'ont pas l'habitude de voir à l'école.
Et ben pour donner un peu l'ambiance, on va écouter la bande-annonce.
Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. La sincère Eliante a du penchant pour vous, la prude Arsinoé vous voit d'un œil fort doux. Cependant, à leur vœu, votre âme se refuse, tandis qu'en ses liens, c'est l'hymen, la muse. J'ai beau voir ses défauts et j'ai beau l'en blâmer, en dépit qu'on en ait, elle se fait aimer.
Et celle qui vous charme est indigne de vous.
C'est que tout l'univers est bien reçu de vous.
C'est ce qui doit rasseoir votre âme effarouchée. Puisque ma complaisance est surtout ses penchés. Et vous auriez plus lieu de vous en offenser si vous me la voyez sur un seul ramassé.
Choisissez, s'il vous plaît.
Alors pour les puristes, je tiens à souligner qu'il y a vraiment un travail d'orfèvre, toute cinérèse, toute diérèse, et parfaitement respecté dans la diction de ces vers. Et ces vers qui peuvent paraître à la lecture parfois difficiles, notamment pour les élèves de première ou de terminale, ou peut-être plus, vous les vivez, vous les dites, vous les respirez comme si c'était tout à fait naturel. Comment vous ressentez cette langue de Molière, Jeanne Pageon, qui jouait Célimène?
Je pense que le plus important, c'est de vraiment de savoir l'arrière-pensée de tout ça, en fait. Quand on a des alexandrins et qu'on a un rythme auquel se confronter, il faut toujours réussir à faire ressentir la pensée derrière et avoir une pensée assez claire pour que ce soit ça qui ressorte. Et finalement, même quand nous, on y croit, bah, ça fait son effet, quoi.
Parce que là, vous jouez une scène non pas d'amour, mais de discorde, et puis vous asseyez sur ses genoux, et puis il vous plotte pendant que vous déclamez tout à fait autre chose.
C'est toujours Alceste.
J'ai jamais peloté Célimène sur scène. Bon, enfin.
Donc il faut vraiment aller voir le spectacle.
Il y a un moment où je suis sur ses genoux, oui. Où il y a des embrassades, mais.
C'est absolument charmant et je trouve qu'il y a une jeunesse qui transpire, qui sort de cette pièce qui est époustouflante. Or, on n'a pas l'habitude de voir ça. Thomas Ledouarec.
Moi, je rebondis par rapport à ce que disait Nadia tout à l'heure, c'est à savoir que je n'ai qu'une envie, c'est de faire revenir les jeunes au théâtre. Moi, j'ai mon angoisse, une angoisse de metteur en scène, puisque ça fait longtemps que je fais ce métier, je vois que les têtes sont de plus en plus grises dans la salle, et je voudrais qu'il y ait de plus en... Je voudrais des jeunes dans la salle, je voudrais que les jeunes reviennent au théâtre, reprennent le chemin du théâtre, et vraiment du plaisir à avoir des spectacles. Et donc j'essaye aussi... Bien sûr, je pense pas qu'à eux, parce que avant tout, on fait un spectacle pour soi et pour...
Et pour tout le monde.
Pour tout le monde, voilà. Mais je veux en tout cas qu'ils se sentent interpellés par la mise en scène et par le spectacle. spectacle et par l'histoire. Et je trouve que, voilà, Jeanne respire la jeunesse, mais tous les personnages... Il y a aussi, c'est un conflit générationnel, la pièce, ça parle de ça aussi. C'est deux générations qui s'opposent, parce que finalement, Alceste, Oronte, Philinte, Arsinoé s'opposent à cette génération que sont les Marquis, Célimène et Éliante. C'est deux générations qui s'entrechoquent. Et c'est ça aussi dont parle la pièce. Et je trouvais que c'était intéressant justement de montrer cette génération de portables, qui sont uniquement dans l'apparence, dans l'image, face à cette génération qui est de boomers que nous sommes un peu à côté de la plaque.
J'aurais pas dit boomer, moi quand même. J'avais un peu le respect de l'âge pour le coup.
Et alors vous, Thomas Lenoirec, vous êtes servi dans votre rôle.
Oui, j'ai eu le courage de jouer au Ronte.
Le courage.
Et le bonheur.
Et le plaisir, non, le plaisir. Oui. Parce que c'est un rôle extraordinaire, parce que c'est un rôle... Il y a deux scènes, mais quelle scène ?
Ouais.
Quelle scène, ouais. Et j'ai la chance d'avoir en plus ces deux merveilleux partenaires, parce qu'en plus je ne joue qu'avec Jean-Charles et Jeanne, et Philinte, qui est joué d'ailleurs par Philippe Mémat, donc j'ai la chance d'avoir des partenaires extraordinaires, et on se régale, il n'y a pas un soir où...
Donc vous arrivez avec votre sonnet.
J'arrive avec mon sonnet. Alors
c'est
je chante.
Sonnet.
Je le chante.
Oui.
Je chante parce
énorme,
que.
C'est l'extraordinaire.
Sonnet, c'est un sonnet. Et là, c'est parti.
Et comme beaucoup de personnes qui. De mondains, comme il l'est, parce que c'est un mondain qui ben, il rêve d'être un artiste. Et il a envie d'être considéré comme tel. Donc il écrit, et voilà, comme beaucoup. On essaye tous d'écrire. Voilà. Lui, il écrit des chansons. Il écrit des textes et puis il a envie de plaire en tout cas à Alceste, parce qu'Alceste est un homme de goût et il a envie de partager ce qu'il a écrit avec Alceste, et ça se passe très mal.
Maintenant il est bon à mettre au cabinet.
Voilà, et malheureusement Alceste ne lui fait aucun cadeau. Il est dur, Alceste, avec Oronte.
Ben, il est cash pour tout le monde.
Ah, oui, il est dur avec tout le monde.
Oui.
Il est dur avec lui-même.
C'est un homme malheureux.
Mais oui, mais c'est pas une exigence, c'est une vérité.
Tout à fait. Mais c'est une tragédie pour lui d'être dans
Absolument.
Ce monde et d'être amoureux de Célimène. C'est une véritable tragédie.
C'est ça la force de cette pièce, c'est que finalement on a toujours le verre à moitié vide, à moitié plein.
Tout à fait.
Et il faut toujours rester sur cet équilibre. Parce que si on reste dans le verre à moitié plein, bah, c'est vraiment tragique et pas facile. À moitié vide, c'est complètement... on passe à travers toutes les profondeurs humaines et psychologiques que nous donne, et sociales, que nous donne Molière. Et de jouer toujours sur cet équilibre, parce que vous arrivez très très bien à faire dans cette... dans ce Misanthrope qui est joué au Théâtre de l'Épée de Bois en ce moment. Jusqu'à quand ?
Jusqu'au 4 février.
Donc il faut vraiment y aller.
Il faut aller vite.
Oui, il faut aller vite. Parce qu'encore une fois, c'est inoubliable, justement par cet équilibre que vous avez. Et sur cet équilibre, on sent que vous êtes à la fois des équilibristes, mais aussi des clowns.
Oui,
mais il ne faut pas oublier que Molière, il a écrit Misanthrope, mais il a écrit aussi des farces. Et c'est une comédie, le Misanthrope.
Mais totalement. Et vous savez que la première du Misanthrope, tout le monde riait.
Mais ça m'étonne pas.
Et que lorsqu'on dit aujourd'hui « Ah non, c'est une pièce sérieuse », non, tout le monde riait. Tout le monde riait, pourquoi ? D'abord, un, parce qu'on reconnaissait les Marquis, on savait qui ils étaient, on avait identifié tout le monde. Donc on se moquait de tout le monde. Ce qui est très fort chez Molière, c'est qu'aujourd'hui, on ne reconnaît plus les Marquis, puisqu'ils sont morts et on ne les connaît pas, mais on les connaît quand même. C'est-à-dire qu'on sait, on a cette typologie dans
on
nos familles,
tous.
Dans nos amis, enfin, on les a tous. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y avait beaucoup de vitres sur le théâtre, et à chaque fois qu'il se passait quelque chose, à chaque fois qu'Alceste arrivait, il pétait une vitre. Et on disait, mais qu'est-ce qu'il va encore casser ? Et ça faisait...
C'est après ça, pour la voilà,
je savais pas.
Ça, il arrive, il pète des vitres.
Et donc, comme Molière arrive dans Alceste, on sait jamais ce qui va se passer, il y a toujours un carreau cassé. Et c'est ça qui a fait beaucoup de succès à la pièce, et que c'était vraiment une comédie. On rit au Misanthrope.
Oui.
Alors, quelle est la scène où vous prenez le plus de plaisir, Jean-Charles Chagas-Bagnan, parce que c'est quand même vous le héros de la fête.
Il n'y en a pas. Non, il n'y a pas une scène particulière. Je prends du plaisir du début à la fin.
Oui.
Ouais, vraiment, quoi. Sans voilà, je ne pourrais pas dire ce que je préfère.
L'atrabilaire amoureux, c'est quand même un oxymore, on est d'accord.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire deux choses contradictoires qui donnent une vérité. On ne peut pas être et atrabilaire et amoureux, ce n'est pas possible. L'atrabilaire, il est mélancolique, il est proche de la mort, il est dans la rage.
Il ne peut pas être amoureux ?
Non.
Ah bon ?
Et alors l'atrabilaire amoureux, c'est ça qui était drôle, c'était le sous-titre.
Oui, Alors, à la fois, c'est un sous-titre, mais moi, je me suis beaucoup accroché à ce sous-titre. Oh. Parce que j'ai toujours dit à Jean-Charles, et on a toujours eu cette direction avec Jeanne et Jean-Charles par rapport... C'est un homme amoureux.
Oui.
C'est un homme amoureux, avant tout. Alceste est un homme amoureux.
Mais c'est un atrabilaire aussi.
Mais
c'est pour ça que je trouve que c'est pas du tout...
C'est pas contradictoire.
Non, moi, c'est pas contradictoire. Et la seule chose qui la rattache, finalement, à la société, c'est cet amour qu'il a pour Célimène. C'est d'ailleurs, tout le cinquième acte, c'est la chose qu'il retient à rester parmi
nous. Il attend que tout le monde parte, en fait, oui, pour lui dire...
Il attend qu'une seule chose, c'est « viens avec moi ». C'est la seule chose qu'il retient presque à la vie. Il se suiciderait, il pourrait se suicider s'il n'y avait pas Célimène.
Est-ce qu'il va se suicider après ?
On ne sait pas.
Il n'y a que Rampal qui a imaginé Célimène et le cardinal.
Ouais, oui, c'est vrai.
Après, qui était pas mal, d'ailleurs.
Qui était formidable, ouais. Très très bonne pièce. Et alors, elle aurait pu l'aimer ? Célimène aurait pu aimer Alceste.
Mais je pense qu'elle l'aime, mais c'est juste un conflit de génération, comme le disait Thomas, et qu'ils n'arrivent pas à se comprendre. C'est pas possible de se comprendre. Alceste, il est trop réfractaire à toute cette nouvelle société, et elle est libre, elle a envie de pouvoir vivre ce qu'elle veut, quand elle veut, et elle a envie d'aimer Alceste, parce qu'elle aime sa façon de voir les choses. Elle aime le fait qu'il soit franc. Elle a besoin de ça autour d'elle aussi pour l'ancrer un petit peu, parce qu'elle est dans un monde superficiel quand même. Mais elle est, je pense pas que Célimène soit superficielle. Et je pense que effectivement c'est un rôle que Molière a écrit qui est très très avant-gardiste.
Et comme Jean-Charles, vous aimez toutes les scènes?
Il y a
quand même le grand duo avec Arsinoé, où là c'est quand même un grand moment.
Mais toutes les scènes sont jouissives. Hein.
Oui.
C'est vrai que le moment d'Arsinoé, même le petit moment avant qu'elle arrive,
oui,
de pouvoir la descendre et qu'elle soit là ensuite, c'est juste incroyable. En fait, ça fait des montagnes russes tout le temps. Et de pouvoir faire passer du sous-texte tout en souriant, c'est magique.
Mais j'ai la chance, d'avoir des acteurs, tous, hein, Jean-Charles et Jeanne notamment, c'est qu'ils ont le potentiel de passer du rire aux larmes avec une aisance, une facilité. Jeanne est un véritable clown. Quand la scène des portraits, ce qu'elle fait dans la scène des portraits, c'est remarquable. Ce que Jean-Charles fait également tout le long de la pièce, parce qu'il est effectivement extrêmement... C'est un vrai tragédien, Jean-Charles, pour l'avoir d'ailleurs mis en scène dans Racine, je peux vous le dire, mais c'est aussi un véritable clown. Et je pense que tu ne peux pas jouer Molière s'il n'y a pas c'est le joker pour moi, les acteurs qui doivent passer vraiment de l'un à l'autre.
Et alors vous, Thomas Ledourec, vous avez cette force incroyable, à chaque fois que vous montez un spectacle, vous créez une troupe. On sent un phénomène de troupe. On sent que tout le monde, est sur le même diapason, que tout le monde s'amuse et que on est là vraiment pour servir le théâtre.
Parce que je poursuis, c'est ma quête, hein, je poursuis cette folle idée de la troupe. Moi, j'ai fait du théâtre pour être en troupe, pour vivre en troupe. J'aime Avignon, parce que je fais le Festival d'Avignon tous les ans au Théâtre des Lucioles. On a déjà joué 2 ans ce spectacle au Théâtre des Lucioles. Mais c'est
Théâtre des Lucioles que vous dirigez.
Que je dirige.
Ça a été un carton à chaque fois.
Et à chaque fois, c'est magique, parce qu'on se retrouve avec que des passionnés de théâtre, et les gens, on fait le plein avec le misanthrope, ça c'est beau. Mais parce qu'aussi, on adore être ensemble. Mm. C'est qu'on adore j'aime cette l'idée de la troupe. J'ai toujours aimé l'idée de la troupe, que Molière incarne.
Absolument.
Qui incarne avant tout.
Absolument.
Et d'ailleurs, je me retrouve, c'est en quoi je me retrouve d'ailleurs énormément en Molière. Et nous, on a tous, et après, on a de la chance parce qu'on s'est vraiment trouvés. Est-ce que c'est la pièce qui nous a réunis? Enfin, je pense qu'il y a aussi beaucoup de la pièce qui nous a réunis, mais on a eu beaucoup de chance que ce n'était pas gagné comme ça, que ça se passe de cette manière-là. Mais on a tellement un tel plaisir à se retrouver ensemble. Et même en tournée, quand on joue en tournée, on est content, on est presque content, et on a du mal à se quitter.
Oui, et puis c'est rare, une distribution qui ne change presque pas sur 2 ans, quoi.
Ouais.
Oui.
C'est très rare. Là, il y a juste Jules qui va remplacer Valérian.
La dernière semaine.
Voilà, il y a Emmanuel qui a remplacé 2-3 fois Philippe. Mais on tient tous à être là chaque fois qu'il y a une date. Hein.
Et à chaque fois, on est joyeux d'avoir joué. Ouais. Et quand on sort de scène, on est tous heureux. Et je pense que c'est ça que le public ressent.
Et ça se voit,
Il y a une belle énergie.
Eh bien, on va filer dans le bois de Vincennes, à l'épée de bois, pour aller assister à ce misanthrope. C'est les jeudis au samedi à 21h, le samedi à 16h30. Et le dimanche à 17h.
16h30 le dimanche.
16h30 le dimanche aussi.
Donc comme samedi à 16h30.
Dimanche, oui. 16h30, j'ai du jeudi au samedi à 21h. Je dis précipitez-vous parce que c'est vraiment un événement, je dirais. C'est un événement d'assister à un misanthrope aussi joyeux, aussi fort, aussi dingue. Merci Thomas Le Douarec pour cette mise en scène et votre participation. Jeanne Pajon, vous êtes une célimène épatante. Ne changez rien, Caroline Devie, une Arsinoe est formidable. Jean-Charles Chagas-Bagnan, un Alceste tout à fait déroutant et vrai. Merci Cédric Coba pour la réalisation, Philippe Malpeche, François Dieudonné, Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Lundi, nous nous retrouverons pour visiter une exposition. Voilà, je ne vous dis pas laquelle. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous et des autres. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous embrasse.